Bienvenue sur le podcast Maman Sereine de Mouvement Épanouissement. Je suis Charlotte Lepage, professionnelle de la santé intégrative et de la relation d'aide. Bachelière en kinésiologie, formatrice Écoute ton corps et maman, j'accompagne les femmes à s'épanouir personnellement et professionnellement grâce aux saines habitudes de vie et à l'attitude sereine. Si tu veux recevoir chaque nouvel épisode directement par courriel, tu peux t'inscrire gratuitement au podcast en visitant le www.mouvementepanouissement.com/podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode tant attendu dans lequel on va parler, oui, de la matrescence, le thème de nos derniers épisodes, mais qu'on va plonger plus précisément dans la santé mentale des mamans. Et lorsqu'on parle de santé mentale, bien, c'est important de faire affaire avec des professionnels, donc c'est leur champ de compétences. Et pour ça, nous avons le bonheur d'avoir la psychologue Jennifer aujourd'hui avec nous, qui est aussi maman et doctorante à l'UDM avec une belle spécialisation dans les enfants, les adolescents, une belle approche aussi qu'on va voir. Et on va parler de lien d'attachement, de sécurité, de bien-être des mamans. Alors sans plus tarder, bonjour Jennifer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour démystifier certains concepts. Puis déjà, je voulais qu'on clarifie quelques définitions. Quelle est la différence entre un baby blues et une dépression postpartum ou un burn-out parental?
C'est une très bonne question. Alors, le baby blues, souvent, ça va arriver tout de suite après la naissance du bébé. C'est très hormonal. Donc, il va y avoir des changements dans l'humeur. Souvent, on passe très vite d'être content à d'être triste. En une minute, on a l'impression de ressentir plein d'émotions. On peut être fière d'être maman, mais aussi on peut trouver ça très difficile ou très encombrant. Donc, on peut trouver ça le fun d'avoir le bébé dans les bras, mais en même temps pleurer de joie ou de tristesse parce qu'on est fatigué. Donc, c'est ça, il y a un côté très hormonal. Parfois, on n'a pas le goût de manger ou de prendre soin de nous, mais en même temps, on a quand même un lien avec le bébé, on a envie de s'en occuper. Donc, c'est plus émotionnel, il y a de l'anxiété, on peut se sentir irritable. Tandis que la dépression postpartum, c'est quelque chose qui va être plus à long terme. Donc, ça va être quelque chose, un changement qui va vraiment prendre plus d'ampleur. Souvent, il y a beaucoup de tristesse, on se sent pas bon, pas bonne, on a envie d'être seule tout le temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions de tristesse, de sentiment d'impuissance. Et on va peut-être aussi avoir le sentiment d'être pas suffisamment bonne ou pas à la hauteur, ce qui va faire en sorte qu'on n'a pas envie, mais c'est pas vraiment pas envie, parce que je pense que toutes les mamans voudraient connecter avec leur enfant, mais c'est pas la force de vraiment vouloir s'en occuper, parce qu'il y a un manque de sommeil, un manque d'appétit. Donc souvent, ça peut venir avec de l'anxiété aussi, des paniques d'attaque et d'angoisse. Donc, le baby blues va être vraiment court terme et on va s'en sortir. Donc, c'est vraiment la fluctuation hormonale après l'accouchement. Donc, c'est tout à fait normal. Le corps est débalancé. Les hormones sont toutes comme en l'air, fait qu'il faut se remettre en place. Tandis que la dépression postpartum, ça va être vraiment plus long. Puis, ça va pas s'arrêter par soi-même. Donc, il faut vraiment aller chercher de l'aide, souvent d'un professionnel de santé, de la médication si nécessaire pour remettre les choses en place pour pouvoir mieux se sentir et mieux s'occuper aussi du bébé.
Je trouve que ben il y a la réponse un peu dans la temporalité. Au début, il y a tellement d'adaptation, on dort pas, changement hormonal, montée laiteuse, et là, il y a comme plein de... Puis notre nouveau rôle de mère qui s'installe. Donc, il y a comme le baby blues, c'est comme la période d'adaptation où est-ce que ouf, c'est normal qu'on trouve ça difficile. Il y en a qui trouvent ça plus difficile que d'autres, puis c'est tout normal. Donc, ça, c'est au début, mais là, quand ça l'étire, ça devient long, puis ça tombe en dépression à travers les mois qui s'en suivent. Là, c'est important d'aller consulter pour aller se retrouver parce que la période d'adaptation, de crise aussi, qu'il peut avoir au début, ben, elle se posait s'estomper tranquillement et on devrait éventuellement, malgré les défis de la maternité, trouver un semblant d'équilibre dans notre vie, c'est ce que j'entends.
Oui, exactement. Puis je pense que on sous-estime aussi l'impact du manque de sommeil, le fait qu'on n'a pas le temps de manger, de se doucher, de brosser les dents, c'est tout ce qu'on parle d'hygiène qui est comme normal, l'hygiène de vie, l'hygiène du sommeil qu'on a l'habitude, c'est d'avoir un 7-8 heures de sommeil. Ben avec un nouveau-né, c'est sûr qu'on n'a pas ça. Donc c'est quand même des besoins primaires qui sont pas comblés. Donc veux pas, c'est normal qu'on va avoir une réaction après un accouchement qui est quand même très demandant, physique et mentalement aussi. de s'occuper d'un bébé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de j'ai plus envie, j'ai pas le goût. Tu sais, c'est très demandant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très normal aussi dans cette transition de vie, nouveau rôle de mère. Mais c'est ça, si ça s'étire et qu'on ne s'en sort pas tout seul ou avec le soutien qu'on a des amis, de la famille, ben c'est sûr que, il n'y a pas de gêne ou il n'y a pas c'est vraiment normal. Il y en a beaucoup des femmes qui vivent un postpartum. Donc, je pense qu'il faut en parler, puis il faut aller consulter, il faut aller voir de l'aide, que ce soit d'un docteur, d'un psychologue ou d'un autre paraprofessionnel. De s'en occuper, c'est important.
Oui, vraiment. Puis ça, c'est une clé parce que souvent on se dit, ah, oh, ben, c'est normal que je sois fatiguée, c'est normal que je sois déprimée, c'est normal, plus on glisse tranquillement et plus on s'enfonce dans la dépression, plus c'est dur après s'en sortir. Donc, de rester alerte, autant la maman que le village autour, hein, de rester alerte à ces signes-là. Oups, il y a un petit peu plus de déprime, on voit que c'est un peu plus difficile, la fatigue accumulée embarque, tellement plus d'énergie qu'on n'a plus envie d'avoir une vie sociale parce que c'est trop demandant énergétiquement, puis on l'a pas. Là. Notre priorité, c'est de manger, se doucher, dormir. Donc vraiment, ça, je pense que le mot d'ordre est important, c'est de rester alerte et sensible à ces signaux-là qui peuvent engendrer la dépression postpartum. Et lorsqu'on vit des difficultés, ben c'est normal, mais l'important, c'est de pouvoir aller chercher les ressources. Puis j'avais vu sur ta page Facebook, tu avais partagé un article et j'ai gardé une citation par rapport au burn-out parental. Et je veux vous la partager parce que ça amène un deuxième point important pour un peu soutenir les mamans dans les grands changements. Et ça va comme suit. Donc, le burn-out parental, c'est un syndrome qui apparaît lorsque le parent est exposé à trop de stress dans leur rôle parental durant une trop grande période. Pardon, je traduis en même temps. Et à travers une absence de ressources qui vont pouvoir compenser pour la lourdeur du stress. Donc, on a une très grande charge sans avoir les ressources suffisantes pour pouvoir y faire face. Et quand on parle de ressources, qu'est-ce qu'on voit au niveau de santé mentale des mamans? Qu'est-ce qu'on veut dire par ressources pour pouvoir compenser la surcharge parentale?
Qu'est-ce qu'on voit comme ressources pour surmonter? C'est une bonne question. Je pense que d'abord, c'est d'identifier où ce qu'on est rendu parce que souvent les mamans n'ont pas le temps ou prennent pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Donc, on a la fausse image de je priorise le bébé, je priorise le bébé en s'oubliant là-dedans. Donc, je pense que des besoins primaires, comme je parlais, de dormir, d'avoir soit une infirmière qui vienne le soir s'occuper du bébé ou le conjoint ou une grand-maman, ou peu importe si quelqu'un peut venir s'occuper du bébé pendant que la maman dort, même si la maman a l'allaite, on prend le bébé, on le met au sein, on change la couche, comme ça la maman ne doit pas se lever la nuit. C'est des petites choses qui sont très, très, très aidantes. C'est sûr qu'une infirmière le soir, c'est coûteux, mais il y a peut-être d'autres moyens dans la communauté. Il y a des amis, il y a des gens qui pourraient vouloir aider aussi. Donc, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Donc, au niveau des besoins primaires, d'avoir de la nourriture dans le frigo, si des gens peuvent pas venir aider avec le bébé, au moins d'avoir déjà des mets préparés, que ce soit dans le freezer qu'on met dans le micro-ondes 2 minutes, puis c'est prêt, des soupes qui sont déjà faites ou c'est des plats déjà préparés, ou d'avoir quelqu'un qui vient aider. Donc, maman peut préparer quelque chose, s'occuper du bébé, ou maman avec le bébé, quelqu'un peut. Donc, c'est vraiment de l'aide primaire au niveau des besoins primaires, du sommeil, de la nourriture, même de pouvoir faire un peu d'exercice. Mettons, tu sais, je m'en vais faire du yoga ou pilates ou quelque chose pendant que, soit avec le bébé, il y a beaucoup, beaucoup de cours pour les mamans après les naissances qui peuvent emmener leur bébé. Donc, il y a plusieurs mamans avec leur bébé. Donc, tu sais, c'est très flexible. Si le bébé a besoin d'être allaité ou d'être pris dans les bras, c'est pas un problème. Donc, je pense de vraiment penser à prendre soin de soi. Aussi, peut-être, au niveau social, parce qu'il y a une isolation. Donc souvent les mamans vont être seules à la maison, puis on s'entend que l'hiver au Québec, c'est difficile de sortir avec un nouveau-né, mais de pas avoir peur d'organiser des groupes chez nous. Là, il y a plus on n'est plus dans la COVID où il faut rester seul. Donc d'inviter des mamans, de prendre un café, il y avait des cafés, je sais plus si ça existe encore, Melon et Clémentine qui étaient ouverts, qui invitaient les mamans à venir avec leur bébé. Il y en a peut-être d'autres dans la région de Montréal. Donc ça, c'est important. Sinon, il y a des centres. Moi, à l'époque, j'allais au centre Mosaïque, donc je me retrouvais, ou dans les CLSC, il y a souvent des ateliers pour les mamans. Ce soit un atelier de massage, un atelier pour emmener le bébé, puis retrouver d'autres mamans. Puis je pense que c'est important vraiment ce côté social, de ne pas se retrouver seule et d'avoir d'autres mamans qui vivent un peu la même chose. Il y a beaucoup de stress, donc je pense de juste pouvoir en parler. que le bébé il boit pas assez, il fait pas pipi, pas caca. En tout cas, c'est toutes des discussions que les mamans peuvent avoir entre elles, puis sentir moins seules dans leur détresse.
Ah oui, parce que le mot stress, c'est pas à prendre à la légère. On a la survie d'un bébé qui est la chose qui nous est le plus chère dans notre univers entier quand on est maman, là. C'est la chose la plus précieuse et on n'a pas appris comment, tu sais, s'occuper d'un bébé. Oui, il y a des cours prénataux, mais c'est un humain, c'est beaucoup plus complexe que juste dans un livre. Hein. S'il a mal au ventre, est-ce qu'il mange assez? Il y a des boutons? Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que, tu sais, d'aller tout évaluer, là, est-ce qu'il rampe correctement? Est-ce que je dois aller voir un spécialiste? On a la pression de devenir presque, en tant que maman, des médecins généralistes, quasiment pour tout comprendre, tout s'activer au moindre signe, donc être sensibilisé à tellement d'éléments qu'on ne connaît pas. Tu sais, ça fait pas partie de ce qu'on a étudié pour la majorité d'entre nous. On n'est pas infirmière. C'est tout un stress parce qu'on veut que notre enfant soit bien. C'est ce qu'on veut le plus au monde. On veut pas qu'il ait mal au ventre. On veut qu'il soit en santé. On veut qu'il soit bien nourri. On fait du mieux qu'on peut, mais en même temps, on apprend sous le tas en bon québécois, on apprend dans l'action, à travers la fatigue, à travers les tâches ménagères. Puis, pour la majorité aussi des mamans que je connais, ben oui, on était en congé maternité à la maison, mais papa est retourné travailler depuis les 3 mois du bébé. Et à ce moment-là, ben, on se retrouve toute seule. Et là, oui, on a toute cette charge-là des rendez-vous médicaux, suivi, médecin, y a-t-il assez de couches pour demain? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Là, samedi, on s'en va chez telle personne, il faut préparer le sac, amener aussi telle chose pour l'aider à dormir. Donc, il y a beaucoup de pression qui se retrouve directement sur le dos de maman. Puis pour être une maman allaitante, j'ai trouvé ça dur, moi, de demander de l'aide parce que l'aide devait s'intégrer un petit peu dans mon mode de vie parce que vu que j'allaite, ben, il faut que la personne qui m'aide m'accompagne dans ce que je veux faire, ce que je veux créer. Donc, si je veux aller à une formation une journée ici et là, ben, il faut que l'aide me suive, donc me suive moi et mon bébé. Et laisser bébé à la maison avec avec sa grand-mère, par exemple, c'est pas facile, on le dit comme ça, mais quand bébé hurle pendant 1 heure et demie parce qu'il crie maman puis que t'es pas là, et ça, même si ton enfant a 8 mois, là, tu sais, moi, je pensais que le postpartum, c'était quelques mois, puis oh, bébé devient indépendant, mais non, là. C'est difficile d'avoir la tête tranquille, d'aller au spa pendant 3, 4 heures, sachant que à la maison, et la gardienne et le bébé sont en panique, là, tu sais, peut-être pas la gardienne, mais le bébé est en crise. Ça met une surcharge mentale, même si on veut aller se détendre au spa. Il y a comme une ambivalence qui vient jouer à l'intérieur de la mère.
Oui, puisque tu parles, c'est intéressant parce que c'est tout le processus de mentalisation, c'est de penser au bébé quand il n'est pas présent et sentir coupable de prendre du temps pour soi. Donc, il y a comme cette culpabilité avec laquelle il faut apprendre à vivre en tant que mère parce qu'on ne se sent pas suffisamment bonne, parce qu'on prend soin de nous, mais je pense que c'est vraiment important. Puis quand on y pense, à plus long terme, d'avoir un enfant qui voit sa maman épanouie, qui voit sa maman qui prend soin d'elle, qui va bien, c'est sûr que l'enfant va mieux aller. Puis le message qu'on donne à l'enfant aussi, au bébé, puis plus tard à cet enfant, c'est j'en vaux la peine, j'investis dans moi parce que j'en vaux la peine. Puis si moi je suis nourrie, si moi je vais bien, je peux mieux m'occuper de toi. Donc je pense que c'est de ne pas le voir d'une manière égoïste, parce que c'est sûr qu'on se sent parfois égoïste, mais de le voir plus comme un investissement. Moi, c'est comme ça que je le voyais. J'ai eu des jumeaux, fait que c'était difficile de prendre du temps. J'avais toujours un bébé à allaiter, un bébé à changer quelque chose, mais j'ai pu, avec du soutien et de l'aide, en fait, apprendre à gérer ce sentiment de prendre soin de moi, de faire des choses que j'aime, de m'épanouir, d'aller voir des amis. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile, mais je pense qu'avec le temps, j'ai appris l'importance. Puis aujourd'hui, ils ont 13 ans, mes jumeaux, fait qu'ils sont plus si petits. Puis ce que je vois, c'est qu'ils ont appris vraiment l'importance de faire de l'exercice, de s'occuper d'eux-mêmes, de parfois de dire j'ai pas envie, j'ai envie de relaxer. Donc tu sais, de s'affirmer, de prendre soin d'eux. Donc, mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'on dise aux parents, qu'on dise aux mamans, n'ayez pas peur, parce que prendre de vous, c'est prendre soin de votre bébé.
Puis on le ressent tout de suite, là. Moi, quand je reviens d'avoir été à une séance de yoga, je suis ressourcée, revigorée, patiente. Puis il n'y a rien de plus. Oui, on a la culpabilité, là. On a la culpabilité lorsqu'on sort de la maison puis qu'on sait que bébé pleure. Mais j'ai encore plus de culpabilité de rester à la maison puis d'être impatiente avec ma fille. Parce que je me dis, mon Dieu, elle mérite pas que je sois impatiente avec elle, mais ça fait 3 jours que je dors pas, je suis fatiguée, je veux juste prendre une douche, j'ai de la misère à aller aux toilettes sans la porter avec moi. Donc, comment est-ce qu'on peut naviguer la notion de la culpabilité en tant que maman, sachant que c'est comme inévitable?
Oui, c'est une très belle question. Puis je pense que c'est comme toute émotion. En fait, il faut apprendre à vivre avec, on ne peut pas s'en débarrasser. Je pense que les émotions ont une raison d'exister. Chaque émotion est valide, et même si elles ne sont pas agréables, c'est comment est-ce que je vis avec. Donc peut-être se donner plus d'autocompassion, réaliser que c'est un moment de souffrance, puis même le dire à haute voix devant le bébé, c'est un moment de souffrance, je suis fatiguée, je vais pas bien, je m'excuse, et je pense que c'est de vraiment verbaliser ce qui se passe, puis de prendre un moment pour souffler, pour respirer, pour se demander, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller mieux? J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire de l'exercice, j'ai besoin de prendre un café, j'ai besoin d'une pause bébé. Et je pense que de pouvoir le dire et puis de le faire aussi, pas seulement d'y penser, mais tu sais, d'agir par rapport à ce qu'on a besoin, c'est prendre soin du bébé. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi, ça veut dire prendre soin du bébé, puis en étant plus avec de la compassion et de la compréhension, parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir mal et puis de sentir mal de sentir mal. Donc, je pense de dire, OK, c'est correct de ne pas se sentir bien. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, c'est It's okay to not be okay. Donc, c'est de se rappeler que parfois, c'est correct de ne pas se sentir bien. Puis, ça fait partie d'être humain. On a des émotions, on ne se sent pas toujours bien, mais on apprend à vivre avec. Puis, je pense que de se dire des belles choses, de continuer à se dire, je fais de mon mieux, c'est important de penser à pas être trop méchant avec soi-même non plus.
Mais j'adore l'approche compassion, autocompassion, puis validation de nos émotions parce que je suis d'accord avec toi, là, une des pires choses qu'on peut faire, c'est juger nos émotions, essayer de les réprimer, ce qui est impossible, au lieu de les réguler, les vivre, puis les entendre, les messages, les besoins derrière. Je trouve que ça fait tellement de sens. Puis pour faire une petite parenthèse d'intégration pratico-pratique plus personnelle, à travers le mois de novembre, j'ai vraiment eu un coup de barre, un coup de fatigue. Moi, c'était ça, là. La fatigue accumulée, peut-être. On a essayé de quitter le cododo puis retrouver la chambre à Clara pour qu'elle soit seule dans son lit. Et ça l'a fait beaucoup de va-et-vient pour parce que je peux pas la laisser pleurer la nuit. Fait que je me lève, je vais la réconforter, j'attends qu'elle se rendorme. Des fois, c'est long. Je retourne dans mon lit par la suite. Et après 8 mois, le 8e mois, c'est là que la plus grande fatigue est arrivée. Et pas dans les mois qui ont suivi l'accouchement, là, ça a été vraiment été à travers le mois de novembre, moins de luminosité, un coup plus difficile. Et là, j'ai senti là l'espèce de déprime monter, une petite déprime saisonnière monter. Puis je me suis sentie mal, je me suis dit, mon Dieu, hein, je suis en congé de maternité. Pourtant, j'ai juste ça à faire. Pourquoi je suis fatiguée? Et ce qui m'a apporté à avoir toute une cascade d'émotions désagréables, c'est la prémisse et l'interprétation que je me faisais que c'était pas normal que je sois fatiguée. Et finalement, lorsque je suis allée défaire ou désactiver ça ou le réinterpréter différemment, ben c'est normal que maman soit fatiguée, puis c'est normal dans les grands changements comme ça que ma fille me réclame plus, puis que je sois là pour elle, et donc je vais avoir besoin de moi plus d'aide au quotidien pour pouvoir me reposer, puis aller chercher de l'aide, les ressources, pour pouvoir moi aussi m'accompagner pendant que j'accompagne ma fille à dormir dans sa propre chambre. Mais je remonte à la pensée initiale qui me faisait réprimer un peu mes émotions parce que finalement, cette pensée-là venait de une croyance que j'avais que les mamans à la maison devraient être épanouies parce qu'on fait pas grand-chose finalement, tu sais. Et même, hein, on entend parfois les conjoints ou les pensées un peu plus vieillots, là, les petites pensées plus vieilles qui disent, mais finalement, dans le temps, nos grands-mères avaient 8 enfants, puis en fait, c'était pas de dépression postpartum, tu sais. Hein, il n'y avait pas le temps de poser la question, c'est ce que je vois bien. Donc, si j'interprétais un petit peu ça comme en tant que maman, c'est attendu dans nos standards de société que tu sois en forme, puis que tu sois correct, puis que tu traverses ça parce que c'est ton rôle de mère. Et si moindrement tu éprouves des difficultés, ben finalement là ça touche la confiance en soi des mamans parce que t'es pas assez bonne pour pouvoir, hein, atteindre les standards qu'on attend de toi depuis des générations et des générations. Comme mot de la fin, comment est-ce qu'on pourrait boucler le self-care et revenir finalement à l'autocompassion en défaisant un peu les standards qu'on peut mettre au niveau des femmes.
Ben, je pense que tout ce que tu dis, c'est important de, tu sais, de déstigmatiser. Je pense de normaliser le fait que c'est pas quelque chose de facile. Il n'y a pas un livre avec une recette à suivre. Chaque enfant est différent, chaque maman est différente, chaque bébé est différent. Même pour la même maman, elle va avoir un bébé avec qui ça va être plus facile, un bébé avec qui ça va être plus difficile. Donc, je pense que c'est de vraiment revoir un peu les croyances et les attentes. Parce que si les attentes sont trop élevées, et on cherche la perfection ou on cherche quelque chose qui n'est pas atteignable, c'est sûr qu'il y aura de la déception. Puis déjà, c'est tellement émotionnel d'avoir un bébé. Fait que en plus de vivre de la déception, de vivre tout ce que vous mentionnez, c'est difficile. Il y a aussi des stades développementaux comme qui sont importants à garder en tête. Là, tu parlais de Clara qui a 8 mois. Ben souvent, l'anxiété de séparation commence. Donc, ça se peut que c'était difficile de se séparer. Donc, c'était peut-être. Il y a des choses, je pense, que c'est important à revoir aussi au niveau du développement du bébé. Puis chaque bébé se développe différemment. Fait que peut-être ce qui serait plus dans un 10 mois, ben ça se peut que Clara, elle l'a vécu à 8 mois, parce que c'est toujours, c'est comme une phase qui est comme sur une courbe normale. Donc, il y en a des qui vont se développer un peu plus rapidement que d'autres. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher de l'information, de s'éduquer. C'est là où aujourd'hui on est chanceux qu'on a des Google Research et on peut tout trouver en ligne. Fait que ça, c'est le fun. En même temps, je pense que ça vient avec c'est pas un danger, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a tellement d'informations qu'il y a comme une surcharge, puis on voit un peu tout, puis on pense qu'on, comme vous dites au début, là, on peut être infirmière, docteur, psychologue, mais c'est pas tous des rôles qui sont faciles à mettre comme chapeau. Donc, moi, ce que je recommande souvent aux mamans qui viennent d'avoir un bébé ou, tu sais, 8 mois plus tard, c'est vraiment de garder en tête qu'on fait du mieux qu'on peut. Et le terme que j'aime, c'est d'être suffisamment bonne. C'est un terme de Winnicott qui était le good enough mother. Donc en français, c'est traduit en maman suffisamment bonne. Puis de garder en tête que de faire du mieux qu'on peut, c'est suffisant. Le bébé, il est nourri, il est aimé, il est cajolé, il est changé quand il a besoin de changer de couche. Et parfois, on ne sait pas ce que le bébé a besoin. Le bébé, il va pas nous le dire. Malheureusement, ils n'ont pas les mots encore pour nous dire ce qu'ils ont besoin. Mais le fait d'être présent, puis d'aider, puis de chercher, puis de dire, oh, t'as froid, t'as soif, t'es fatigué. Ben, ça, c'est suffisamment bon. Le bébé, il sent qu'on est présent, même s'il n'arrête pas de pleurer tout de suite parce qu'on n'a pas découvert c'est quoi qu'il ou elle a besoin. Le fait qu'on est présent avec le bébé, qu'on est là, c'est ça qui est important. C'est ça qui est suffisamment bon. Mais on peut même s'imaginer quand on va pas bien, puis on a une amie ou on a notre conjoint ou conjointe qui vient, qui s'approche, qui dit, qu'est-ce qui se passe? Puis on n'a même pas de mots, on est juste en train de pleurer. Le fait qu'on a quelqu'un présent à côté de nous, on se sent déjà moins seul, c'est ça qui est suffisant. Donc, peut-être de garder ça en tête quand on se sent toute mauvaise, quand on se sent pas suffisamment bonne, de dire, je fais de mon mieux et c'est correct. Le bébé va survivre, même quand tu parlais, Charlène, là tout de suite, de « Oh, je m'en vais, je me sens pas bien », de laisser la petite avec la gardienne ou la grand-maman, elle va pleurer. Ben, pleurer, un bébé est jamais mort parce qu'elle a pleuré. T'sais, tant qu'il y a un adulte qui s'en occupe, le bébé va bien aller. Puis si toi, tu peux te ressourcer, faire du yoga, puis aller mieux, puis revenir, puis être de meilleure humeur, puis pouvoir prendre ton bébé, puis l'enlacer, puis lui dire « Je suis là pour toi maintenant », de manière authentique, versus de rester 24 heures sur 24 avec ton bébé, puis de plus avoir l'énergie, de plus savoir quoi faire, ben, je pense que c'est mieux de se retirer, puis de prendre soin, puis de revenir recharger pour pouvoir s'en occuper, que de rester parce qu'on se sent trop coupable de partir un moment. Fait que ce serait ça mon conseil pour aujourd'hui.
Oh wow. Puis ça vient boucler aussi tout ce qu'on a dit par rapport à la confiance en soi, prendre soin de soi, le self-care pour diminuer le stress, prendre soin de sa santé mentale, physique, émotionnelle, oui, mais aussi avoir le soutien parce qu'on peut pas tout faire ce qu'on doit faire pour notre bien-être et celui du bébé en même temps. On est juste une personne. Donc de là,
Exact.
avoir des ressources pour pouvoir nous aider à prendre soin de nous et pourquoi pas des ressources qui prends un moment aussi pour nous dire, hein, t'es une bonne maman, tu travailles fort, tu fais plusieurs choses. On voit que c'est pas parfait, là. On est en apprentissage, on se met pas la pression d'être parfait, mais au moins on a le soutien autour de nous pour pouvoir finalement avoir une matrescence, une entrée dans la maternité, une belle transformation remplie de bienveillance et pour bébé, mais aussi pour maman, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on est une maman sereine, hein, qu'on prend soin de nous aussi avec autant d'amour qu'on prend soin du bébé. Et s'il nous manque des ressources, mais ne pas, on parlait de nounou, de gardienne, mais il y a aussi les ressources relevailles qui existent à très faible coût pour pouvoir avoir des gens à la maison qui viennent nous aider. Des fois, c'est déjà des sages-femmes, des infirmières, des doulas, etc., qui viennent faire le lavage, l'épicerie pour nous donner un coup de main. Donc, il y a des ressources
Exact.
qui existent. On va en lister dans l'épisode d'aujourd'hui. Et aussi, je vais lister, si vous voulez retrouver Jennifer dans son cabinet, donc elle est à Montréal plus précisément, il y a aussi des ressources en Zoom pour tous les liens pour retrouver Jennifer et pour entrer en contact avec elle si vous le désirez. Merci d'avoir été avec nous. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à des amis ou en story en identifiant Mouvement Épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Si tu veux aller plus loin, plusieurs ressources offrent à toi. Premièrement, au-delà du podcast gratuit, il y a la communauté gratuite Maman Sereine sur Facebook. Le lien est en description de l'épisode si tu veux venir nous rejoindre. Si tu veux t'épanouir personnellement, trois options s'offrent à toi. Nouveauté 2024, Yoga Maman, j'enseignerai le yoga les mercredis à 10h à Chambly et les Yogi Baby seront les bienvenus. Il y a la boutique de mouvement épanouissement en ligne dans laquelle tu vas pouvoir retrouver l'atelier du stress à la sérénité en rediffusion. Et finalement, j'anime les ateliers Être bien de l'école Écoute ton corps. Tu peux aller voir aussi en description de l'épisode pour voir les prochaines dates et peut-être te joindre à nous en présentiel ou en virtuel. Si tu veux t'épanouir professionnellement, notre service de consultation privée de 1 ou 2 séances te permet d'aller en profondeur dans ton entreprise en regardant la synergie du succès, de l'épanouissement personnel et professionnel pour que tu puisses rayonner et prospérer dans ton activité. Parce que tu mérites de briller, de succès, mais aussi de sérénité.